Ok, alors nous allons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1. Et nous lirons les 9 premiers versets. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes ou dans les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » On va arrêter la lecture là. Et nous prenons, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, mais c'est un peu les deux volets d'une étude. Alors on était dans Apocalypse, je n'ai pas vérifié, mais il y a un silence avant la septième trompette? Non, mais voilà, le Seigneur nous a donné un silence. Donc on fait une petite pause, mais bon. C'est pas important, nous on avait nos calendriers, le Seigneur a le sien. On va regarder, et le titre de ce message, c'est « Mon fils ». Nous trouvons là, « Tu es mon fils ». Donc, « Mon fils ». Et en fait, il faudra qu'on garde pas mal de ce qu'on va voir ce matin. Ça va vraiment prendre son sens lors de la deuxième étude. Je sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais ça c'est autre chose. Ok? Commençons. Je pense que je ne vais pas rencontrer beaucoup d'objections quand je dis que le Nouveau Testament s'enracine dans l'Ancien Testament. C'est un fait qui est reconnu par la grande majorité des croyants. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, même si beaucoup de croyants aujourd'hui n'utilisent pas trop l'Ancien Testament. Mais il suffit de regarder, par exemple, le début de l'Évangile selon Matthieu, pour s'en persuader. Pour commencer, il y a une longue généalogie qui reprend en fait toute l'histoire de l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Et puis, sans cesse, Matthieu, par exemple, prend bien soin de souligner « tout cela arriva » afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 22 du chapitre 1, par exemple. Les Juifs, appelés par Hérode, vous savez, quand les mages arrivent à Jérusalem, où est le Christ? Enfin, où est le roi des Juifs? Alors, Hérode fait venir les experts, n'est-ce pas? Et tout de suite, ils savent exactement où c'est. Ils savent qu'il y a un passage dans Michée qui dit « c'est Bethléem ». Vous voyez? Donc, ils ne vont pas chercher dans la philosophie grecque ou dans les rabbins juifs ou hébreux ou tout ça. Non, ils vont dans l'Ancien Testament. Et par exemple, on peut regarder encore Marc chapitre 1, verset 2, qui va dans le même sens. Marc 1, et puis pendant que je cherche, vous pouvez marquer aussi Luc 1 et 16, et Luc 1, 46 et suivant. Mais Marc, regardez Marc chapitre 1, verset 2. selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Oui. Et quand il parle commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit. Et d'un certain côté, il n'y a pas d'évangile si on n'a pas l'Ancien Testament. Donc ça, c'est important. Et il nous faut bien garder cela, parce que continuellement, l'Église apostolique va chercher dans l'Ancien Testament ce dont elle a besoin. On a même dit, et c'est assez joli, que la semence du Nouveau Testament est enfouie dans l'Ancien Testament et que cet Ancien Testament fleurit dans le Nouveau Testament. On a parlé aussi des deux lèvres de Dieu, et ainsi de suite, il y a toutes sortes d'expressions. Mais c'est assez vrai. Et effectivement, toutes les argumentations des apôtres se fondent, explicitement ou implicitement, directement ou non, sur la révélation de l'Ancien Testament. Et franchement, il est tout à fait impossible de comprendre la réalité de la Nouvelle Alliance sans saisir l'annonce qui est faite de cette Nouvelle Alliance dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance est révélée dans l'Ancienne Alliance. La typologie, l'ombre, la substance de la Nouvelle Alliance est sur chaque page de l'Ancien Testament, chaque verset pratiquement. Mais il y a des dangers à manier cette typologie. Il est possible de le faire d'une manière qui ne soit pas fidèle à la vérité biblique, c'est-à-dire à la grande fresque biblique. On a par exemple déjà entendu des prédicateurs qui font correspondre les murs de Jéricho à l'antagonisme du cœur pécheur. Alors voilà, c'est la trompette qui va faire tomber ça, et ainsi de suite. Vous avez, par exemple, autre chose qui est très répandue, le fil cramoisi de Rahab est amené comme correspondant au sang de Jésus-Christ. Mais ça n'a rien à voir du tout. Effectivement, le sang de Christ sauve, mais le fil cramoisi de Rahab ne sauve pas. Vous voyez? Mais bon, c'est des choses qui peuvent attirer l'attention et ça semble très bien. Ces choses sont très intéressantes, mais elles n'ont aucune validation biblique. Bien que, et là je reviens à ce fil cramoisi, peut-être 95-99% des croyants évangéliques aujourd'hui pensent que ça c'est l'interprétation classique. Mais pas du tout, pas du tout. Mais il y a un problème, et c'est ce que je voudrais qu'on examine ensemble pendant ces deux sessions. Quand est-ce qu'on les verra ensemble, on verra. Mais on prend le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on voit par exemple une citation de l'Ancien Testament, comme on a lu là. Alors, on comprend très bien, fort bien, le développement de l'auteur du Nouveau Testament. On voit très bien ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Et on comprend aussi assez bien le passage de l'Ancien Testament. Vous allez dans la référence, là, et oui, bon, ça, c'est quelque chose qui tient la route. Mais franchement, on ne comprend pas pourquoi l'auteur du Nouveau Testament cite ce passage de l'Ancien Testament là où il le fait. On a quelquefois du mal à faire le lien. Et on n'est pas seul là-dedans. On n'est pas seul là. Il y a même des experts qui se sont cassés les dents sur la chose. Des commentateurs, des théologiens. Et il y en a un en particulier qui dit « Bon, ben ici, le Nouveau Testament, comme dans le passage qu'on a lu, il cite l'Ancien Testament simplement pour montrer que la foi chrétienne n'est pas une chose nouvelle. » Vous voyez, l'idée, c'est un peu que voilà, les chrétiens sont face avec les juifs, parce que les juifs étaient encore bien importants à l'époque, et les juifs disent « C'est quoi cette nouveauté là ? Nous, on a le poids de l'histoire, le poids de la révélation. » Alors, les auteurs du Nouveau Testament vont citer de temps à autre un peu l'Ancien Testament, et puis ça, on a l'impression quand même, on fait partie de la même chose. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont citer la souveraineté de Dieu et ces choses-là pour montrer qu'ils sont avec Calvin et puis avec tous ces gens-là du passé. Mais tout ce qu'ils annoncent par la suite est exactement le contraire de ce que Calvin a annoncé, par exemple. C'est un peu la même chose. Il y a donc un qui nous a dit ça. Et il y a un autre théologien qui relève Alors c'est très intéressant parce qu'il relève bien l'argumentation, mais il reconnaît qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle c'est comme ça. Alors il le laisse de côté et puis il va dans le texte. Donc vous voyez, si on voit, si on a un peu cette gêne par rapport aux citations de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le Nouveau Testament, notamment chez Matthieu et en hébreu, on n'est pas les seuls à avoir été gênés. Donc, n'ayons pas peur. Et pour beaucoup d'entre nous, la tentation est grande de faire comme si la citation n'existait pas, ou de faire un raccourci sur la réflexion des auteurs. En fait, l'auteur, dans la lettre aux Hébreux, par exemple, cite l'Ancien Testament. Bon, on fait un genre de raccourci parce que, voilà, ici, par exemple ici, il parle du Fils, n'est-ce pas? Et donc c'est un peu la tentation. Alors, la conclusion n'est pas toujours fausse, mais la récolte est pauvre. C'est-à-dire qu'il y a des tas de richesses que on loupe parce qu'on ne réalise pas pourquoi l'auteur du Nouveau Testament cite ce passage en particulier à cet endroit-là. Donc vous voyez un peu la démarche qu'on cherche à faire là. Parce qu'il y a beaucoup plus que ces espèces de slogans qu'on entend dans l'Église évangélique aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, la révélation divine est un enchevêtrement tellement complexe de doctrines, de vérités, qu'il est difficile de s'y retrouver. Et ça, c'est très, très classique. Hein. C'est ce qui est derrière, par exemple, la quantité de démarches pour suivre des formations théologiques. Alors, comme vous le savez, on a par exemple à Europresse, Écho de la vérité, on a le cours de formation continue, formation théologique. Et il y a énormément de gens qui demandent à faire ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont devant un plat de spaghettis. Ils aimeraient bien savoir où est le début, où est la fin, et tout ce qui est entre les deux. Et on est souvent face à la révélation de cette manière-là. On a du mal à vraiment faire sens de tout. Alors, faire sens de tout, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite parce qu'on ne va pas y arriver. Mais vous voyez, mais quand même, on aimerait bien. Et moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune croyant, je voulais aller faire une formation théologique pour pouvoir bien organiser mes pensées. Alors maintenant, on regarde en arrière et je suis tellement reconnaissant que le Seigneur a claqué la porte. Elle ne m'a pas permis de faire cela parce que ça aurait été vraiment l'erreur. On veut comprendre comment les choses s'articulent. Or, c'est probablement la pire des choses à faire. Parce que tout de suite, on tombe dans un système ou des systèmes. Alors, ce que je veux essayer de faire ici, on verra si on va y arriver, c'est de comprendre ce que les auteurs du Nouveau Testament ont compris que les auteurs de l'Ancien Testament avaient compris. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui va nous aider. Ce n'est pas un exercice stérile qui cherche les points de détail. Non, au contraire, on verra ainsi qu'il y a des grands thèmes que Dieu développe dans sa révélation. Ce qu'on pourrait appeler ces grandes fresques. C'est un peu comme si le Seigneur nous fait pénétrer dans son château et puis il y a dans chaque pièce des pièces immenses. Alors il y a des grandes fresques, des thèmes. Et cela pourra donner une ossature à notre recherche et à notre compréhension. Parce que notre recherche, notre compréhension, je l'espère, ne va pas se terminer, ne va se terminer qu'avec notre départ d'ici-bas. Donc, vous voyez un peu la démarche que j'aimerais qu'on fasse. On va voir si on va y arriver, hein. Alors, on prend ce passage, Hébreux 1, chapitre 1, versets 1 à 9, en particulier. Matthieu et Hébreux sont donc probablement les livres qui lancent le plus grand défi. Et notre passage ici, comme vous l'avez vu, il cite trois textes de l'Ancien Testament. Le psaume 2, 2 Samuel 7 et le psaume 45. Donc on va regarder ça. Et Hébreux, entre autres, établit que Christ et l'alliance qui est en lui sont supérieurs et supérieurs à tout. N'est-ce pas? Tout ce qui est venu avant n'a aucune comment n'a aucun éclat en comparaison avec Christ et l'alliance qui est en lui. Ici, au chapitre 1, la supériorité de Christ sur les anges est démontrée. Vous savez, il y a ça, ensuite ça va à Moïse et ainsi de suite. D'accord? Il est vrai qu'il est possible de comprendre que Dieu a établi Christ dans une position qui n'appartient pas aux anges. Ça, c'est très possible, mais on peut le faire à plusieurs niveaux. Il est fils et eux ne sont qu'ont des es ne sont que ne sont que des esprits serviteurs. D'accord? Vous voyez, ça, tout le monde peut le voir. Mais c'est un genre de raccourci, parce que le texte va plus loin que cela. Surtout en raison des citations qui sont données. Et c'est ce qu'on veut voir. Et c'est pour cela qu'il y a quelques instants, je parlais de la supériorité de Christ et, en majuscule, de l'alliance qui est en lui. Vous voyez, c'est plus que simplement le fait qu'il est Christ et eux, c'est des anges. Où il est Dieu, et eux, c'est des anges. OK? Donc, on avance avec ça. Et parce qu'après tout, les anges aussi reçoivent le titre de fils dans l'Ancien Testament. Ils sont appelés les fils. Par exemple, un passage qu'on connaît tous dans le livre de Job. Et non seulement les anges sont décrits comme les fils de Dieu, mais Satan est au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, vous voyez? On ne peut pas simplement le pousser de côté. Les rois et les juges sont appelés fils, quelquefois dans l'Ancien Testament. Alors il est vrai que c'est toujours au pluriel quand c'est ainsi. Mais quand même, ils sont là. Comment comprendre? Et donc on va commencer par examiner 2 Samuel 7. Alors on va dans 2 Samuel 7. Et là, vous savez bien entendu que c'est le passage, l'alliance davidique, comme on dit. Pas tout à fait ça, mais on est arrivé à l'appeler comme cela. Lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, David dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Vous connaissez l'histoire, en gros, je pense, n'est-ce pas? Donc on examine ça. Après plusieurs années passées à régner sur Juda, à Hébron, David règne maintenant sur tout Israël, c'est-à-dire qu'il a été reconnu par Israël. Ce n'est pas lui qui s'est imposé. C'est Israël, les anciens d'Israël qui sont venus le chercher, et il est maintenant situé à Jérusalem. Il y a des tas de choses qu'on a déjà vues par bribes, n'est-ce pas? En outre, le tabernacle, avec en son sein l'arche de l'Alliance, se trouve aussi à Jérusalem. Et nous avons donc, pour la première fois en Israël, le système de sacrifice et l'autorité royale dans un même lieu. Gardez bien ça à l'esprit parce que ça va nous servir jusqu'au bout. Le système de sacrifice, avec le centre qui est le propitiatoire, et l'autorité royale dans le même lieu. Et cela prend plus d'importance encore quand on va dans Hébreux 9, mais on ne va pas le faire maintenant. Mais c'est déjà remarquable. C'est déjà remarquable. Alors là, je vais ouvrir simplement une toute petite parenthèse, si vous permettez. Dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament comprenaient beaucoup plus de choses que nous, on pense qu'ils comprenaient souvent. Parce qu'eux lisaient ou vivaient des expériences ou vivaient certaines choses, mais dans le contexte de la révélation qui avait été déjà donnée. Et là, on le verra plutôt dans la deuxième partie. Il y a des choses qui sont dites à David, et David les intègre dans ce qu'il sait déjà de ce que Dieu a révélé de lui-même. Et aussi, les auteurs, enfin l'Ancien Testament, les croyants dans l'Ancien Testament réalisait toutes les vérités que nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Pas nécessairement avec la clarté qu'on voit, mais par exemple, Josué met à défi le peuple de suivre l'Éternel. Et le peuple dit, nous suivrons l'Éternel. Mais Josué dit, non, vous ne le ferez pas. Vous voyez, il sait quel est le cœur de l'homme. Alors qu'on pourrait dire, ça, c'est une doctrine du Nouveau Testament. Non, 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 pas du tout. Mais bien sûr, dans l'Ancien Testament, il n'est pas dit en tant que tel, oui, l'homme est complètement. Ça vient dans des situations. OK? Donc, on a David ici dans ce passage, et il est là à Jérusalem. Il y a le temple, enfin le tabernacle, l'arche de l'Alliance et le roi. OK? Pourquoi est-ce que David décide de bâtir un temple? On ne le sait pas, en fait. Est-ce qu'il a honte d'être dans un palais alors que Dieu est dans une tente? Peut-être, peut-être. Mais franchement, David sait que Dieu n'habite pas dans la tente. Quand même. Est-ce qu'il se souvient de passages dans le Deutéronome qui parlent du fait que les Hébreux, chaque année, s'assembleront en un lieu, dans une ville? Il les dit cela. Et donc, il va faire un temple. On ne sait pas. On ne sait pas. Et même Nathan, lui, voit la chose bien, hein, il manifeste son accord. Mais Dieu dit autre chose. Et le lendemain matin, Nathan doit revenir vers le roi en disant, attends, il y a autre chose. Il y a un oracle de l'Éternel. Et la réponse de Dieu montre quelle est la nature de son alliance de rédemption. Et cela a un impact direct sur la vision du salut. J'espère que vous me suivez encore. OK. Regardons par exemple les versets 5 à 7. On est dans 2 Samuel 7, 5 à 7. Regardez. Va dire à mon serviteur David, ça c'est Dieu qui parle à Nathan, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Et on se dit, mais franchement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, cela veut dire que dans l'alliance de grâce, l'initiative vient toujours de Dieu. Toujours. Or, là, l'initiative venait de David. Et Dieu ne peut pas le laisser bâtir une maison comme ça. Parce que ça serait en porte-à-faux par rapport à la nature de l'alliance. La nature de l'alliance, c'est Dieu qui initie la chose, voyez. Par exemple, Abraham est à Ur en Chaldée, ce n'est pas Abraham qui un jour se dit, tiens, franchement, le monde est pourri, on n'arrive à rien, moi je vais chercher le Seigneur. Non, non, c'est Dieu qui vient l'appeler, voyez. Moïse, même chose. Hein, Moïse a voulu prendre les choses en main, il a tué l'Égyptien, il se retrouve dans le désert. Et c'est Dieu qui vient le chercher, voyez. Donc ça, c'est la nature de l'alliance. Et c'est très important pour nous à saisir. Si un temple doit être construit, ce n'est pas à David d'en donner l'ordre. Parce que souvent, on va entendre que Dieu ne pouvait pas permettre à David de faire ça parce que David est un homme de guerre. Mais attendez, l'Éternel n'est-il pas connu comme l'Éternel des armées? Ça, c'est la guerre aussi, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est simplement que ça n'est pas dans l'esprit de l'alliance. Allons, versets 8 à 10 maintenant. Regardez. Maintenant, tu diras, mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Vous voyez, le chapitre commence en disant « Quand l'Éternel lui eut donné du repos. » Et ici, nous avons la même chose. Dans l'Alliance, ce n'est pas David qui rend grand le nom de Dieu, ce qui se passerait avec un temple, mais c'est Dieu qui donne à David d'avoir un nom qui est grand. Et aujourd'hui, nous entendons parler de David parce que Dieu l'a fait qui il est. Vous voyez ? Maintenant, allons les versets 10 et 11. 10 et 11. « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » C'est Dieu seul qui donne du repos à son peuple. Et aucun homme né de femme ne peut donner du repos. Pas possible. Josué n'a pas pu donner le repos. On le verra la prochaine fois. C'est pour ça qu'il est dit aujourd'hui. Il y a un autre aujourd'hui. Vous voyez? Non, ce n'est pas à David d'en décider. Comme au verset 1, comme il est dit, l'Éternel lui a donné du repos. Mais maintenant, il ne va pas donner du repos au peuple. Le repos de l'ancienne alliance est encore et toujours relatif. C'est-à-dire que Josué a conquis Canaan, mais il y avait encore des poches. Et notamment, David a dû conquérir la ville de Salem, juste avant. Et même le repos que David donne, là, il va être vite compromis. Non, c'est Dieu seul qui donne le repos à son peuple. Donc, en fait, il faut toujours qu'on cherche plus loin que ce que l'homme peut faire. Versets 11 à 14. « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges, je t'ai accordé du repos, et ainsi de suite. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et là, bien entendu, on reconnaît notre citation. On reconnaît notre citation. « La maison de David est la maison de l'Éternel. » On en a déjà parlé, n'est-ce pas ? David veut bâtir un bâtiment, un temple à l'Éternel. Mais Dieu n'est pas principalement intéressé par un bâtiment. Il y a un jeu de mots ici, car c'est le même terme, n'est-ce pas ? Et lui, il veut... En fait, il va donner à David une dynastie, une maison. Et ici, Dieu est en train de donner de l'assurance à David. Sa dynastie ne sera pas comme celle de Saül. Saül a été écarté. Il a perdu la royauté car il n'était pas fidèle à Dieu. Mais celui qui sortira de David servira Dieu. C'est pour cela qu'il sera un fils. Et on a besoin de développer cette idée de fils. Donc maintenant, on va regarder à ce mot fils, ou plutôt cette idée fils. Aujourd'hui, la notion de fils est grandement déterminée de façon biologique. Par exemple, qui est-ce qui parmi nous fait le même métier que son père? Personne. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est simplement une question d'ADN, et puis c'est comme ça qu'on va voir notre filialité, ou filiation plutôt. Je ne sais jamais. Enfin, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais autrefois, c'était différent. Le fils, effectivement, il y avait le lien biologique, mais il était lié en grande partie par sa fonction et par son identité avec son père. Par exemple, un enfant était né, grandissait, et le papa est boulanger, le fils va être boulanger. Ou le papa est cultivateur, il va être cultivateur. Vous voyez ? Et donc, Il avait, oui, donc ce même métier, parce que non seulement cela, mais il l'avait appris de son père. Il n'allait pas à l'école. Et par exemple, quand on parle de Jésus comme le fils du charpentier, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Autre que ça pourrait dire aujourd'hui. Parce que moi, bon, Jean-Claude, le fils du soudeur, j'aurais bien du mal à souder quelque chose, il ne faudrait surtout pas me passer un fer à souder, n'est-ce pas? Et donc, quand on parlait d'un fils de, on voulait dire quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que quelqu'un ou quelque chose d'autre. Vous voyez? Et on le retrouve continuellement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Alors, si vous voulez prendre des références, Exode chapitre 4, versets 22 et suivants, Matthieu 5, verset 9, et puis il y a ce passage où les Juifs confrontent Jésus, ou plutôt Jésus confronte Jésus, les Juifs, et ils lui disent, mais nous sommes les fils d'Abraham. Et tout de suite, Jésus, il prend ça à la main, il prend ça. Et lui, il ne parle pas de biologie, là. Hein? Effectivement, ils sont les enfants biologiques d'Abraham, hein? D'un certain sens. Mais en fait, Jésus ne comprend pas ça dans ce sens-là. Il leur dit, mais si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham fait. N'est-ce pas? Mais vous ne le faites pas. Donc, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Vous voyez, il comprend ça comme cette idée de fils qu'on veut faire. Et en fait, il leur dit, en fait, quand je regarde ce que vous faites, vous me parlez de votre père. Qui est le diable? Qui est le diable? Et c'est très important pour nous de saisir cette chose-là. Oui. Et dans ce passage-là, Jésus dit quelque chose de très important. Tout ce que le père fait, le fils le fait. Et c'est ainsi qu'il est le fils. C'est ainsi qu'il est le Fils. Tout ce que le Père fait, le Fils fait. Et donc, quand nous avons cette citation en 2 Samuel 7, tu es, verset 14, je serai pour lui un Père, il sera pour moi un Fils, c'est-à-dire que celui-là dont il est parlé va faire tout ce que le Père lui dit et tout ce que le Père dit. C'est très important et ça apporte une richesse, une profondeur remarquable, parce que c'est exactement le sens de ce que 2 Samuel 7, 14 dit. Le roi Davidique reflète l'autorité, la bienveillance et l'alliance de Dieu. Donc, en tant que roi, il devient fils de Dieu. Vous voyez? Et on peut parler de David comme le fils de Dieu, dans ce sens-là. Ce n'est pas simplement pour Jésus. Et quand il est dit, tel roi est venu, tel roi Davidique, et il a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, c'est ça, en fait. Il agit comme un fils indigne, parce qu'il ne fait pas ce que Dieu a dit. Vous voyez? Mais le texte va plus loin, car ce trône sera établi pour toujours. Ça, c'est notre citation. Soit donc, les rois davidiques vont se succéder jusque dans l'éternité, et nous savons que ce n'est pas le cas. La ligne davidique, biologique, c'est terminé. Soit un roi vient qui ne périra jamais. Et c'est ça le Fils. Vous voyez? Ce n'est pas mentionné explicitement ici, mais c'est incontournable. Incontournable. Et David a bien saisi cela, parce que tout de suite après, il va dans le temple et il offre une prière à Dieu. Il y a donc déjà dans l'Ancien Testament des attentes davidiques qui sont élevées, qui sont plus que simplement une lignée biologique. Ça n'est pas simplement une question de succession. Et c'est pour ça que quand par exemple, les prophètes post-exilique parlent, ils peuvent toujours parler dans le sens de ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que ça ne s'arrête pas avec la succession biologique des fils de David. Et au 8e siècle, par exemple, avant Jésus-Christ, Ésaïe mentionne cela chapitre 9, verset 5 et suivant. Regardons Ésaïe 9. Et au verset 5 et suivant. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Et regardez au verset 6. « Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Oui, on est dans le même registre là. On est dans le même registre. Et au 6e siècle, Ézéchiel parle au mauvais berger d'Israël. Allons à Ézéchiel 34. Donc déjà, on voit que les gens de l'Ancien Testament comprenaient des dimensions que peut-être avec lesquelles on n'est pas nécessairement familier. Donc au chapitre 34, Ézéchiel, enfin l'Éternel parle par la bouche d'Ézéchiel aux mauvais bergers d'Israël. Et parmi ces bergers, bien sûr, est le roi, n'est-ce pas? Regardez verset 1 et suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Ils ne font pas ce que le Père fait. Donc ils ne sont pas fils, dans le sens biblique. Vous voyez? Et ensuite, 25 fois dans ce passage, l'Éternel dit qu'il sera le berger de son peuple. C'est lui qui sera le berger de son peuple. C'est-à-dire que c'est lui qui va être le roi du peuple. Vous voyez? Donc nous voyons en 2 Samuel 7 que Dieu annonce l'établissement de son alliance au travers de la ligne royale davidique, mais il va bien plus loin que simplement cette ligne biologique. Un roi vient qui sera véritablement le Fils de Dieu, qui agira, c'est-à-dire, et fonctionnera comme Dieu le Père. Il va accomplir l'alliance. Et c'est précisément ce dont parle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Aucun des anges n'a fait ça, parce qu'aucun des anges ne peut être dans la ligne davidique. Christ est supérieur aux anges car il est le roi qui fait ce que le Père fait. C'est-à-dire, l'importance ici, c'est Christ et l'alliance qui est en lui. Et bien entendu, l'auteur de la lettre aux Hébreux était en train d'écrire à des gens qui étaient découragés. Donc on est toujours dans ce même registre. Avançons un peu. Il y avait une deuxième citation, c'était le psaume 2. Alors, on l'a lu dernièrement, donc je ne vais pas le lire, et on peut le lire à loisir, hein. Mais c'est ce deuxième passage que Hébreux cite dans notre passage. « Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges, car Dieu a dit des choses à ce Fils, et de ce Fils qu'il n'a pas dit aux anges, ni des anges. » Mais comment faire le lien? Comment faire le lien? Et c'est là que l'auteur de la lettre aux Hébreux mentionne, cite le psaume 2 et notamment l'engendrement dont il est question là. De quel engendrement est-ce qu'il s'agit? Et il faut regarder le psaume, regardez versets 1 à 3. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, ça c'est eux qui parlent. Délivrons-nous de leurs chaînes. Nous avons ici une description de la situation du monde, aujourd'hui et hier. C'est ce que nous voyons quand on ouvre le journal, en gros, quand on écoute la radio. Est-ce que tout l'antagonisme, toute la haine du monde fait peur à Dieu? Versets 4 et 5. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Pas du tout, pas du tout. Dieu n'est pas effrayé, ce ne sont que des sauterelles à ses yeux. Mais il y a aussi une autre raison pour que sa puissance, une autre raison qui fait que Dieu n'est pas effrayé. Il est puissant, plus puissant que les rois de la terre. Mais il n'est pas effrayé pour une autre raison. Verset 6. Regardez. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Voyez. Il a un plan et il a mis en place une alliance. Et dans ce cadre, il a établi son roi et il l'a fait sur Sion. C'est-à-dire, c'est la ville du grand roi, c'est la ville de Dieu, où l'honneur de Dieu, où le nom de Dieu est, et c'est aussi la ville de la paix, Jérusalem. N'est-ce pas? Il l'a fait sur Sion. Dieu fait quelque chose et personne au monde ne peut l'empêcher. Verset 7 du psaume. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, c'est le roi qui parle, ce n'est plus Dieu. C'est le roi qui parle ici, c'est David qui parle. Vous voyez? Et il parle de la même manière que Dieu. Regardez, c'est pour ça qu'on pense souvent c'est Dieu qui parle. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit. Et aujourd'hui, il est assez courant de faire le raccourci directement avec Christ, là. Mais en fait, c'est David qui parle. Et vous allez voir comme quoi ça amène une certaine richesse. Il publie en décret ce que Dieu a dit qu'il fera. Ça, c'est le rôle du roi en Israël, parce qu'il représente Dieu pour la nation. Le dessein de Dieu va s'accomplir par le moyen du roi, parce qu'il est roi par décret, en conséquence de quoi le monde a grand intérêt à faire la paix avec ce fils. Vous voyez? Le décret parle du roi, probablement David, et le présente comme fils. C'est lui qui va accomplir le dessein de Dieu. Rappelez-vous, le fils fait tout ce que le père fait. Il parle d'aujourd'hui. Dans notre verset 7, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est-à-dire la date où il est établi roi d'Israël par décret divin. Nous n'avons pas un engendrement classique ici, ce n'est pas David qui est engendré par sa mère. Non, non, c'est pas même une nouvelle naissance. C'est il devient fils par décret. Là, on parle d'une alliance. Vous voyez? Le gros problème aujourd'hui avec, et on y baigne nous aussi, hein, dans ce monde évangélique, c'est que le salut est principalement personnel. Mais dans la révélation biblique, le salut a une dimension qui est alliantielle et qui a à faire avec un peuple et avec le dessein de Dieu. Vous voyez comme on arrête de tourner autour de nous-mêmes, même dans ce point-là. Donc, là, il devient fils par décret. De qui parle-t-on ici? D'un roi davidique? Sans doute. Mais les termes sont très larges, trop généreux en quelque sorte. Parce que, au verset 8, il dit: Je te donnerai les nations, les extrémités de la terre. Ça, David n'a jamais connu, hein? Ni aucun des rois davidiques. On n'est plus dans le seul registre d'Israël ici. Et nous revenons à cette attente dont nous avons déjà parlé, d'un roi davidique qui devient roi par décret, une alliance, et qui fait tellement ce que Dieu a décidé qu'il est appelé fils d'une manière plus élevée. C'est l'établissement d'un roi davidique ultime. Vous me suivez encore là? Ok, on avance, mais on met des bases, et vous allez voir à la fin du deuxième message comme quoi ces choses-là vraiment tombent en place là. Ok, on a regardé le psaume 2, mais quand on revient à Hébreux, on voit qu'en fait, le Fils n'est pas seulement supérieur aux anges de manière ontologique, on pourrait dire, parce qu'il est Dieu. Oui, Christ est Dieu. On ne va pas remettre ça en question. Mais dans Hébreux, L'auteur parle de la supériorité de Christ, pas parce qu'il est Dieu. Parce que sinon, l'argumentation d'Hébreux ne tient pas. Elle va plus loin que cela. Hébreux montre que le Fils est supérieur aux anges parce qu'il est établi comme le roi davidique ultime, celui qui accomplit le dessein de rédemption de Dieu. Et ça, aucun des anges ne peut le dire, ne peut le faire. Et par exemple, on va exprimer ça. Par exemple, quelquefois on prie et on dit « Seigneur, merci pour ton Fils parce que même un ange n'était pas suffisamment bon. » Pourquoi? Parce qu'aucun ange ne peut être un roi davidique. Vous voyez? Donc on dit la même chose, mais c'est important de souligner ces choses-là parce que ça va nous apporter une certitude, une solidité à notre lien avec l'alliance de grâce que Dieu a conclue, a établie en Christ. Ainsi, tout le raisonnement se fonde sur le déroulement de l'œuvre de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire que Dieu fait quelque chose qui va en direction de ce roi davidique ultime qui doit venir et qui va faire ce que le Père fait. Ce n'est pas simplement un salut individuel, mais c'est une alliance de grâce. Elle est nouvelle, comme on le verra dans le deuxième volet. Mais quand est-ce que ce roi est établi par décret dans sa royauté? Ça, c'est une question. Pour certains, c'est l'incarnation. Mais, il est roi quand il naît. Parce que les mages arrivent et ils disent, où est le roi des Juifs? Donc, quand il naît, il est déjà le roi des Juifs, d'un certain côté. On peut aussi dire qu'il l'est quand il entre dans son ministère, revêtu du Saint-Esprit. Et on pense à l'onction qui revêtait les rois dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit vient oindre Jésus-Christ d'une manière particulière à son baptême. On peut aussi le voir roi sur la croix. Il est méprisé, mais il attire tout homme à lui. Tous ceux du dessein de Dieu. Le royaume de Dieu a déjà commencé, mais dans un autre sens, le jour vient où tous les royaumes de ce monde deviendront le royaume de Dieu et de l'agneau. Et donc, on pourrait dire, c'est dans l'ascension, dans sa cession au ciel, le fait qu'il est assis à la droite de Dieu, que toute autorité passe par lui. Mais déjà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le point tournant, en fait, se situe à la résurrection. Le sacrifice a été mis à mort. Et Jésus est justifié par le Père, vers qui il retourne avec le sang. Ça, c'est l'accomplissement de l'alliance. C'est à ce point qu'il entre dans son royaume. Toute autorité passe maintenant par ses mains, ce qu'il dit à ses apôtres, avant de retourner au ciel. Et c'est à ce point que lui, qui est déjà Dieu, de par sa nature, devient fils dans ce sens-là, c'est-à-dire celui en qui l'alliance de Dieu s'accomplit. Ce que Dieu fait et ce que Dieu a promis. Il est maintenant le médiateur de royauté divine, c'est-à-dire qu'il a la puissance. Le roi est celui qui a la puissance. Rappelez-vous, David est interpellé par le fait qu'il est maintenant à Jérusalem, on verra qu'il y a encore beaucoup plus derrière, et que l'Arche de l'Alliance aussi. Le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu de toute éternité, et là, il entre dans sa vocation de roi davidique suprême, celui qui va mettre en place, en exercice, l'alliance de grâce de Dieu. Alors, bien sûr, on est des êtres humains, on est des petites sauterelles, et on regarde ça, on regarde la divinité actuellement. Hein. Donc, ça nous dépasse énormément, n'est-ce pas? Donc, 2 Samuel 7, par exemple, et le psaume 2, tout d'un coup, prennent tout leur sens. Ce qui était dit du roi et au roi, Davidique, s'applique maintenant tout autant à Jésus qu'à David et aux autres rois Davidiques. Et nous voyons donc que la citation du psaume 2, qu'on trouve par exemple en Actes 13, 34, tournons là, Actes 13, 34. Parce que ce psaume est cité plusieurs fois. Regardez. On va commencer verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Oui, on parle de l'alliance là. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. On parle d'une alliance, que le Dieu Tout-Puissant a conclue. Et c'est en Christ. Alors, d'un certain côté, si on voit simplement Christ comme Dieu qui accomplit l'alliance, on n'est pas complètement dans l'erreur. Mais vous allez reconnaître qu'il y a quand même une richesse et un fondement, une assurance qu'on peut gagner du lien qui est entre l'auteur de la lettre aux Hébreux et ce qu'il a compris, que les autres avaient compris dans l'Ancien Testament. Et cela nous donne une assise beaucoup plus solide. Ce qui était précisément ce qu'il voulait donner aux Hébreux découragés. Et là maintenant, on a vu la cohérence entre le Nouveau Testament et la citation dans le Nouveau Testament de passages de l'Ancien Testament. Donc maintenant, cette citation, par exemple, de Acte 13, elle devient tout à fait compréhensible. On comprend pourquoi. Ça fait partie de l'alliance. Et c'est pour montrer tout le bloc de l'alliance. Le fait de la résurrection établit l'éternité de la royauté et donc des promesses de la nouvelle alliance que les Hébreux étaient précisément tentés d'abandonner. Et nous allons être aidés dans notre compréhension de la fresque alliancelle du salut. En saisissant ces choses, vous voyez. Ça n'est pas que Jésus a été envoyé afin que je puisse l'accepter et que je puisse sauver ma peau de l'enfer. Non, non, ça c'est beaucoup plus que cela. Vous voyez. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir que pourquoi est-ce que Dieu a suivi cette ligne d'action? Bon, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, bien sûr, mais parce que la gloire de Christ resplendit encore plus. Et souvent, on l'a dit que oui, le Fils, il est glorieux, mais maintenant, retourner au ciel, assis à la droite de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que médiateur de la nouvelle alliance, il a une gloire, d'une certaine manière, parlons humainement, qu'il n'avait pas avant. Vous voyez? C'est exactement ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux voulait dire. Et de façon à le dire, il a été voir dans l'Ancien Testament ce qui le disait. Alors ça nous aide énormément dans notre lecture de l'Ancien Testament. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est important de regarder dans ce sens-là. Ça fait déjà attirer le cœur vers la gloire de Christ, les louanges de Christ. Ça n'est pas simplement un petit sauveur qui peut nous dépanner. Non, c'est celui que Dieu a nommé par décret, a oint, roi, roi pour l'éternité, le grand-fils de David, comme on dira. Ça passe pas trop bien en français, mais on se comprend, n'est-ce pas? Et donc, nous voulons nous réjouir. Et en retournant à Hébreux chapitre 1, on voit tout de suite la richesse que le passage prend, n'est-ce pas? Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il été jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Alors, l'ange peut être, oui, il est fils de Dieu, mais il ne peut pas mettre en œuvre l'alliance. En fait, l'alliance de grâce, il ne la comprend qu'en regardant l'Église, comme on a vu récemment. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, c'est-à-dire qu'il fera tout ce qu'il me voit faire, ce que Jésus déclare de lui-même. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, c'est-à-dire qu'il va faire ce que Dieu a fait et a décrété. Donc, nous avons ici la vision de Christ. Et c'est un Christ qui est d'une richesse incommensurable. On passera toute l'éternité à voir la richesse du Seigneur. Et commençons dès aujourd'hui. Amen.